qu'il prenne la place qui lui revient au milieu de nous. Lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Vous savez, ce que le Seigneur aimerait, c'est d'occuper dans nos vies la place qu'il occupe dans tout l'univers. Quelle place occupe-t-il dans tout l'univers? Eh bien, dans tout l'univers, il reste et demeure le Seigneur des seigneurs. Et il voudrait que nous lui donnions cette première place, qu'il ne soit pas là simplement comme un invité, un simple invité, mais plutôt comme étant l'hôte suprême, comme étant celui autour duquel tout va orbiter, tout va tourner, que Dieu soit béni. Nous allons sans plus tarder incliner nos têtes dans la prière, nous préparer à recevoir la parole de Dieu. Ce matin, Seigneur, c'est avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de crainte, mais aussi avec beaucoup de reconnaissance que nous nous sommes approchés de toi pour t'adorer, Seigneur, pour te louer en esprit, en vérité. Ce matin, ô Dieu, tu nous as accordé ce privilège immense et incommensurable de nous attarder devant ta face, de nous ouvrir à toi, Seigneur, afin d'être rassasiés par ta présence. Merci de continuer, Seigneur, à nous manifester cette bonté, de continuer, Seigneur, à répandre ta présence parmi nous. Ma prière, ô Dieu, est que cette présence se manifeste davantage au travers de ta parole, qu'alors que ton serviteur proclamera, Seigneur, avec solennité ta parole, que tu sois derrière elle pour l'accomplir, que cette parole puisse trouver des cœurs bien disposés, qu'il accueille avec enthousiasme, avec reconnaissance, mais aussi des cœurs qui soient pronts, Seigneur, à la mettre en pratique. Bénis chacun de nous, que par ta parole tu renouvelles notre intelligence et tu nous rendes capables de saisir, Seigneur, tout ce qui vient de toi. Merci Jésus, nous voulons manger cette parole avec appétit, nous voulons, Seigneur, la dévorer afin qu'elle finisse par faire les délices de nos vies. Nous voulons, Seigneur, que cette parole puisse être, ô Dieu, cette dynamique qui nous anime, que ça soit le levier de toute notre existence. Car par ta parole, tu te révèles à nous. Par ta parole, Seigneur, tu poursuis ton œuvre de régénération, ton œuvre de transformation et de métamorphose dans chacun de nous. Alors parle-nous, fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais revenir une fois de plus sur ce thème qui nous accompagne depuis déjà deux dimanches. Aujourd'hui, ça sera le troisième épisode de ce thème qui nous présente Jésus comme étant le destructeur des œuvres du diable. Ce thème, mes amis, met en évidence une des missions pour lesquelles Jésus est venu sur cette terre. Ce thème est un des thèmes majeurs de la parole de Dieu et il peut tout à fait nous accompagner tout au long de l'année. Même une année ne suffirait pas pour parler de la mission suprême, de la mission singulière que Christ a accomplie en venant sur cette terre. Il avait été missionné par le Père. Il est venu dans un but bien précis. Il a accompli sa venue, la raison de sa venue. Il est retourné auprès du Père où il est assis dans la gloire, au-dessus de toute puissance, de toute principauté, au-dessus de toute autorité, au-dessus des hôtes des ténèbres, au-dessus des destructeurs de l'enfer. Notre Jésus, votre Jésus, formidable. Jésus, le destructeur des œuvres du diable. Nous allons lire la même histoire, mais cette fois-ci dans l'évangile de Luc, car Luc nous apporte certains détails que nous ne trouvons pas dans Marc, et je vais essayer d'attirer l'attention de chacun de nous sur certains de ces détails qui sont tout aussi importants. Et à partir de tout cela, eh bien, nous allons essayer de voir ensemble ce que le Seigneur a à nous transmettre ce matin au travers de la prédication de sa parole. Nous sommes dans Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 26. Est-ce qu'on peut afficher le thème et le texte? Ok. À partir du verset 26, ils abordèrent dans le pays de Gérazéniens. Je vous rappelle que Géraza ou Gadara, c'est la même chose, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. Depuis assez longtemps, il ne portait pas de vêtements et il ne demeurait pas dans une maison, mais parmi les tombes. Voyant Jésus, cet homme poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait ses liens et était poussé par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Et il suppliait, et les démons, les esprits mauvais évidemment, suppliaient Jésus pour qu'il ne leur ordonne pas d'aller dans l'abîme. Il y avait là un troupeau considérable de pourceaux qui paissaient sur la montagne, et les démons suppliaient Jésus pour qu'il leur permette d'entrer dans ce pourceau. Il est leur permis. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le résultat, c'est que le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Ceux qui le faisaient paître, en voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. Il y avait de quoi. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment les démoniaques avaient été délivrés. En foule, tous ceux de la région des Gérazéniens demandèrent à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait instamment de pouvoir rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, une fois de plus, je reviens sur l'histoire de cet homme de Gadara, de cet homme qui avait été malheureusement possédé par une légion des démons, cet homme qui malheureusement était devenu un lieu des campements, des envahisseurs des ténèbres, des démons, des esprits impurs de tous bords, et qui un jour fut attiré à Jésus, qui un jour rencontra Jésus. Et à partir de ce moment-là, mes amis, cet homme ne fut plus le même. Il expérimenta la délivrance sur le champ. Il fut libéré de l'emprise dévastatrice, destructrice du diable sur sa vie. Le rejeter, l'humilier, le mépriser, l'homme qui n'avait plus de dignité, lorsqu'il rencontre le Seigneur, eh bien, il recouvre sa dignité. Il redevient un homme normal. Plus qu'un homme normal, il devient citoyen du ciel. Alléluia. L'homme retrouve sa lucidité. Il est complètement débarrassé de ses crises, des démences. Lui qui était autrefois un danger pour la société, qui était une véritable terreur pour sa famille et pour les gens de la ville ou de la région, eh bien, lorsqu'il rencontre le Seigneur, tout change. Il devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont derrière lui. Désormais, eh bien, c'est une nouvelle vie qui commence. Alléluia. Voilà ce qui arrive lorsque quelqu'un rencontre Jésus. Mes amis, ce dont l'homme a besoin, ce dont chacun de nous a besoin, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit la texture de nos cheveux, la forme de notre nez, quelle que soit notre culture, quel que soit l'endroit du globe, l'endroit de la terre où nous vivons, Tout homme, quel qu'il soit, a besoin de Jésus de Nazareth. Voilà le message que nous devons annoncer tout autour de nous. Car nous vivons un temps terrible, un temps de distraction, un temps de séduction. L'ennemi fait tout pour distraire l'Église du Christ. Semblable à une barque ballottée par toutes sortes de tempêtes, eh bien, l'Église du Seigneur est sérieusement secouée par des faux enseignements, par des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'enseignement des apôtres. Des hommes et des femmes qui sont manipulés par des démons et qui entraînent dans leur égarement, dans leur perdition, beaucoup, beaucoup de personnes. Ces gens ne se cachent plus, voyez-vous. C'était, je crois, le vendredi, je montais, ou le mercredi ou le jeudi. Je vois pas loin de chez moi une grande affiche. Explosion des miracles. Méfiez-vous! Méfiez-vous, mes amis. Ne vous mettez pas Dieu à dos. N'allez pas vous compromettre. Voyez-vous, c'est pour vous dire que lorsque le diable aveugle quelqu'un, il est capable de tout. Il n'a plus de gêne. Oui ou non? Il n'a plus de gêne, plus de scrupules. On court après la célébrité. Oui, le diable peut te rendre célèbre. Le diable peut te donner la notoriété. Mais à quoi bon? Que servirait-il, a dit le Seigneur? Que servirait-il à un homme de gagner le monde par sa fortune? De gagner le monde par la célébrité, par la notoriété, si un jour cet homme ou cette femme doit se perdre pour l'éternité? Mes amis, pensez à l'éternité. Il n'y a rien qui soit une priorité en dehors de l'éternité. Voilà pourquoi Dieu a placé dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Mon ami, ne te laisse pas omnubiler par les choses que Dieu t'a données. Même les bénédictions, si nous ne faisons pas très attention, pourraient devenir de véritables entraves à notre relation avec le Seigneur. La même bénédiction peut un jour se transformer en un couteau à double tranchant. Voilà pourquoi nous ne devrions jamais nous laisser distraire par les bénédictions. Il m'a donné ça, tant mieux, Seigneur, je te bénis. Mais mes yeux restent fixés sur toi. Car la suprême bénédiction, c'est sa présence. Et sa présence seule. Gloire à Dieu. Oui, le rejeté. Oui, l'esclave retrouve, mes amis, de manière soudaine, de manière instantanée, toute sa dignité. Quand le Seigneur commence un travail, il ne le fait jamais à moitié. Le Seigneur, comme nous allons le voir, n'a pas donné l'occasion aux démons de négocier avec lui. Aucune négociation possible. Car nous avons là une rencontre des puissances, en effet. Au-delà de la rencontre de Jésus, avec cet homme qui était complètement animalisé par les démons, cet homme complètement avili, cet homme qui avait été dépouillé de sa dignité. Au-delà donc de la rencontre entre le Seigneur et cet homme, cet ancien homme de tombeau, nous voyons un affrontement de Jésus-Christ avec les puissances démoniaques. Il y a donc là une rencontre de puissances. D'un côté, vous avez le Seigneur de gloire, vous avez le royaume de Dieu, le royaume de lumière, incarné, mes amis, par Jésus-Christ, le roi tout-puissant. Et de l'autre, vous avez les démons, mes amis, qui appartiennent à une autre réalité, au monde des ténèbres. Ils font partie de ce que j'appelle les envahisseurs de l'abîme. Ils sont là pour détruire. Ils sont là pour écraser. Ils sont là pour nous attaquer d'une manière ou d'une autre. Car ils ont de la haine contre l'homme. Ils savent que l'homme, malgré ce qu'il est, mes amis, l'homme, qui qu'il soit, quel que soit son rang social, quelle que soit la condition de son intellect, quel que soit ce qu'il est, l'homme reste une créature que Dieu aime et porte dans son cœur. Et ils savent aussi, ces démons, ces sortes de l'enfer, savent que l'homme est promis à une destinée, mes amis, extraordinaire. Pouvez-vous vous imaginer qu'en Christ, Lorsqu'un homme rencontre Jésus, comme cet homme de tombeau de Gadara, lorsqu'une femme fait une expérience avec Jésus, eh bien, Jésus-Christ, il occupe une position au-dessus de tous les anges, au-dessus de tous les archanges. Mes amis, ouvrez les yeux sur les privilèges qui sont les nôtres, de par notre position en Jésus-Christ. Tout ce que le monde peut nous offrir les différents trônes sur lesquels nous pouvons nous asseoir, tout cela n'est rien face à notre position en Jésus-Christ. Nous sommes devenus les héritiers du Dieu vivant. Ça veut dire que celui qui a créé l'univers, celui qui a créé notre système solaire, celui qui a créé la terre, avec toutes les richesses, ce Dieu-là est notre Dieu. Plus que notre Dieu, il est notre Père. Et il est prêt, mes amis, à nous faire hériter, à nous donner un héritage éternel. Car tout ce que le monde peut offrir est éphémère, est évanescent. Voyez-vous? C'est donc au-delà de Jésus d'un côté et de l'homme de l'autre côté, une véritable rencontre de puissance entre deux royaumes. Une véritable rencontre de puissance. Jésus, le Fils du Dieu très haut. Jésus, le Seigneur de gloire. Et de l'autre, une légion des démons. Une multitude, mes amis, d'esprits impurs. L'homme de Gadara, comme nous l'avons vu pendant deux dimanches, était devenu esclave de tous ces esprits démoniaques, de ces esprits mauvais. Et ces esprits, de par leur présence dans cet homme, eh bien, ils le faisaient faire des choses contre nature. Nous l'avons vu. La photographie que nous avons de la vie de cet homme est terrible. Il vivait au milieu des sépulcres. Il allait de tombe en tombe, hein. Il vivait parmi les tombes. Il s'automutilait. Il prenait des pierres et se meurtrissait. Il se faisait du mal. Il poussait des cris de douleur, des cris de terreur. Il était une véritable terreur pour les gens de sa ville, pour les gens de sa famille. Il se promenait dans une nudité honteuse. Voyez-vous? Voilà ce que le diable fait lorsqu'il arrive à nous influencer d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que le diable fait, mes amis, lorsqu'il essaie de nous attirer à lui en nous faisant miroiter toutes sortes de choses. C'est toujours dans le but de nous achever. Combien d'hommes et de femmes sont tombés dans ce piège? Combien d'hommes à qui il a fait croire qu'ils étaient les plus intelligents, les plus beaux? Des gens, lorsqu'ils marchaient, ils faisaient montre d'une prestance comme jamais on en a vu ou trouvé sur cette terre. Combien de femmes sont tombées dans ce piège? À qui il a fait croire que c'était les plus belles femmes sorties des entrailles de Vénus, que sais-je? Et puis un jour, ils sont tombés dans des pièges terribles pour lesquels aujourd'hui elles pleurent encore. Vous voyez? Mes amis, le diable n'a d'autre objectif que de détruire l'humanité. Il est là pour détruire. Il est là pour nous voler. C'est ce que le Seigneur met à notre disposition. Il est là pour diviser. Il est là pour dresser les peuples les uns contre les autres, le poussant à des actes ignobles, intolérables, des génocides ou des crimes contre l'humanité. Derrière la déliquescence, tous azimuts de nos sociétés, derrière la déchéance, la décrépitude morale à laquelle nous assistons aujourd'hui, hélas, derrière l'inversion des valeurs, l'érosion des valeurs, derrière toutes ces pratiques contre nature que nous voyons de plus en plus dans notre monde, surtout dans l'hémisphère nord, qui prétend être mieux avancé que les autres. Derrière tout cela, mes amis, il n'y a pas que le cœur de l'homme qui est rongé par le péché, mais il y a aussi et surtout l'influence des puissances des ténèbres. Il y a l'influence, mes amis, des démons, des esprits mauvais. Il y a les hôtes de l'enfer. les puissances du mal. Voyez-vous, il y a toute une hiérarchie dans le mal. Au sommet de cette hiérarchie, il y a Satan. Et puis ensuite, il y a tous ces démons. Ils sont de la même nature, voyez-vous. Et ils sont d'ailleurs plus dangereux lorsqu'ils vous sourient que lorsqu'ils vous persécutent. Car lorsqu'ils vous persécutent, ils manifestent leur véritable nature. Quand le monde vous acclame, alors soyez vigilants. C'est pour vous achever, voyez-vous. Mais lorsque le monde vous persécute, rendez grâce à Dieu, que nous dit la Bible. Parce que le monde manifeste sa vraie nature. Elle est gangrénée par l'obscurité des ténèbres. Elle est rongée par le plus terrible mal qu'est le péché. Oui, derrière toutes ces inégalités de plus en plus croissantes dans notre monde, un peu partout dans notre pays, derrière toutes ces injustices de plus en plus criantes, il n'y a pas que l'avidité de l'homme. Il n'y a pas que la convoitise, la cupidité des uns et des autres, ce désir de vouloir tout posséder, alors qu'on en a déjà, mais on n'est pas satisfait. Mon ami, il n'y a rien qui puisse te satisfaire sur cette terre. Tu as beau avoir 5 villas ici à Kinshasa, 2 villas en Afrique du Sud, 3 en Israël, 4 au Canada ou aux États-Unis, et ne jamais être satisfait. Rien de ce qu'il y a sur cette terre ne peut satisfaire pleinement l'homme. Comme Pascal a dit, l'a bien exprimé par cette pensée devenue célébrissime. Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Puisque ce vide a la forme de Dieu, eh bien, il y a donc Dieu qui peut satisfaire l'homme. Oui, derrière tout cela, mes amis, ces injustices, cette corruption, cette inversion des valeurs, cette déchéance, derrière tout cela, oui, disais-je, il n'y a pas que les cœurs avides, il n'y a pas que des cœurs voraces, il n'y a pas que des cœurs cupides, mais il y a aussi et surtout derrière tout cela, les hôtes des ténèbres. Les puissances du mal sont à l'œuvre. C'est ainsi que la richesse ou les richesses de ce monde sont détenues par une poignée d'individus. Voyez-vous, même dans notre pays, regardez combien de gens vivent dans une exubérance matérielle, mes amis, qui est interpellante. Et dans le même temps, il y en a qui rament pour pouvoir nouer le debout du mois. Derrière cette cupidité, cette convoitise, derrière cette corruption, il n'y a pas que ce désir d'un cœur pervers, il n'y a pas que ce cœur altier, ce cœur égoïste, ce cœur égocentrique, ce cœur narcissique, mais il y a aussi et surtout les puissants des ténèbres qui trouvent là un allié de taille et qui vont continuer à irriguer l'homme par toutes sortes de pensées, pour l'amener à posséder davantage, pour l'amener à être satisfait, à se lancer dans des conquêtes féminines ou dans des conquêtes masculines. Voyez-vous, il y a aussi des vampes. Ce matin, c'est surtout sur la réaction des démons que j'aimerais attirer notre attention. C'est rare, hein? C'est rare, et pourtant, nous allons voir dans ce texte qu'il y a des grandes leçons à partir de la réaction des puissances démoniaques. Mes amis, la réaction de cette légion démoniaque qui avait eu domicile dans la vie de cet homme de Gadara, cette réaction nous apprend beaucoup sur Jésus de Nazareth, le Jésus que nous sommes venus adorer ce matin. Le Jésus qui nous a rencontrés un jour dans notre misère, voyez-vous, la réaction des démons nous apprend beaucoup sur le Jésus de la Bible, sur le Jésus des évangiles. C'est Jésus qui est salut pour tous les peuples. C'est Jésus qui est lumière pour éclairer les nations. C'est Jésus qui est gloire d'Israël. Oui, au travers de la réaction des démons, nous pouvons tirer des leçons formidables, des leçons de nature, à nous communiquer une autre image de qui est Jésus. Car à force de parler de lui, beaucoup ont fini par perdre de vue ce qu'il est véritablement. Voyez-vous, j'avais été sidéré, effaré, stomaqué, en suivant un de nos bishops ou évêques ou chez qui, parlait avec arrogance, une sorte d'outrecuidance nauséabonde, cet excès de confiance en soi. Ah, mais le Saint-Esprit, c'est un copain. Allez, s'il vous plaît, le Saint-Esprit est Dieu. Même si nous interagissons avec lui, même s'il nous conduit, nous devrions toujours avoir une attitude de crainte et de tremblement. Jésus reste Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous ne devrions pas avoir son nom tout le temps dans la bouche. Attention, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Aujourd'hui, on voit Jésus, le nom de Jésus sur toutes les devantures des boutiques. Et même des boutiques qui sont tenues par les gens dont la vie est un démenti de l'enseignement de Jésus. Dont la vie est aux antipodes des valeurs incarnées par le Christ. Mais tout cela est mercantile, hein? Tout cela est lucratif, attention, hein? C'est pour attirer. Comme on sait que nous avons une affection particulière pour le nom du Seigneur, eh bien pour mieux vendre, qu'est-ce qu'il faut faire? On met le nom de Jésus. Voilà. Et bientôt vous aurez des marques de chaussures Jésus, des grâces. Des grâces. C'est lui qui nous jugera. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons nous prendre même pour Dieu. Mais en ce jour-là, personne ne sera là pour nous assister. Personne ne pourra dire, Seigneur, ah, je comprends, ce jour-là, il était déprimé. Voilà pourquoi il avait tenu un peu des propos délirants. Non, nous serons seuls. Seuls face au Dieu d'éternité. Ça sera un jour terrible. Je ne souhaite pas le rencontrer lorsqu'il sera assis sur le trône blanc pour juger l'humanité. Grâce soit rendue à Dieu pour tous ceux qui l'ont rencontré sur cette terre comme sauveur, comme Seigneur. Alléluia. Ceux-là ont échappé au jugement. Nous ne le rencontrerons pas dans l'éternité comme un juge. Non! Nous entrerons dans sa gloire et il nous recevra comme des fils et des filles. Il nous dira, entre dans la joie de ton maître fidèle, servante, fidèle, serviteur. Tu as été fidèle envers moi. Tu m'as servi contre vents et marées. Tu as tenu bon malgré les attaques. Ta famille t'a rejeté. Tu as tout perdu. Mais tu n'as rien. Tu ne t'es pas rebellé. Mais tu es resté fidèle à moi. Eh bien maintenant, voilà ce que je dispose pour toi. Attendre de telles paroles de la part du roi des rois est la récompense la plus grande qui soit. Les gens peuvent nous récompenser. Merci chef, tu m'as nommé. Très bien, mais ça va passer. Hein. Le poste qu'il nous aura donné n'est pas un poste que nous occuperons ad vitam aeternam. Hein. Faudra bien qu'un jour nous laissions ce poste à quelqu'un d'autre, lorsque le temps de la retraite viendra. Mais la récompense du Seigneur est éternelle. Le verset 8, 28, 30, 31 et 33 du texte que nous avons lu en disent long. En disent long sur la réaction des démons. Lorsque nous amorçons un pèlerinage à travers les quatre évangiles de Jésus-Christ, qui sont les quatre piliers, les quatre fondements principaux de notre foi, j'ai déjà eu à vous le dire, je me permets de vous le rappeler. Tout ce que nous trouvons dans le livre des Actes, tout ce que nous trouvons dans les Épîtres, et même dans la révélation apocalyptique que l'apôtre Jean avait reçue, tout cela n'est que le développement, l'amplification, mes amis, la dissertation, si vous voulez, des enseignements du Christ que nous trouvons dans les Évangiles. À peu près, voyez-vous, dont les évangiles restent le fondement de notre foi. C'est par et au travers les quatre évangiles que nous avons accès à la grâce du Père. Vous prenez l'évangile de Matthieu, il vous conduit vers le trône de la grâce. Vous prenez Marc, la même chose. Vous prenez Luc ou Jean, la même chose. Les quatre convergent vers une seule vérité. Jésus est l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha pour l'humanité. Oui, les évangiles, disais-je, accordent une place importante, une grande place, aux affrontements que Jésus a eus avec des esprits mauvais, avec les forces du mal. Lisez les évangiles, mes amis, plus que tout autre livre d'édification. Il y en a qui lisent des livres, voyez, malheureusement, comme on dit, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Des gens écrivent, tout le monde est auteur aujourd'hui, tout le monde est écrivain aujourd'hui. Voyez. Et quelquefois, la plupart de toutes ces proses sont des plagiats. On ne donne même pas les sources, on donne l'impression aux gens que ce sont des pensées qui viennent de vous. Alors on va écrire sur le combat spirituel, on va écrire sur le tel ou tel autre esprit, etc. Et comme les gens sont friands de ce genre de littérature, alors ils se précipitent là-dessus. Et vous les voyez souvent avec ces brochures. Partout ils vont dans leur sac, les dames, écoutez-moi bien. Voilà. Et vous avez déjà lu ça? Mais non, si ça vient de Dieu, tant mieux. Mais commencez d'abord à le dire à la personne, tiens, vous avez déjà lu l'épître de Jude. Ah bon? Il dit oui, moi j'ai lu ça. Ah bon? Moi je t'encourage. Plutôt que de faire la publicité de tel apôtre ou je ne sais quoi, qui a écrit ceci ou cela. En cela, je ne veux pas dire que nous ne devons pas lire les livres d'édification spirituelle, comprenez-moi bien. Mais le temps que nous consacrons à ces livres ne devrait pas prendre ou absorber le temps que nous devrions consacrer à la parole de Dieu. Car la plupart de ces livres sont inspirés par la Bible. Alors, pourquoi ne pas aller directement à la source? Au lieu de vous contenter de l'eau qu'il y a dans le petit seau que vous avez là. Cette eau-là, l'auteur a été puisé quelque part. Mais vous avez aussi la grâce d'aller puiser directement. Et nous avons donc ces affrontements entre d'un côté le Seigneur et de l'autre côté les forces du mal. Mais aussi, nous trouvons dans l'Évangile, l'attitude que le Seigneur a eue, et ça c'est important, à l'égard de Satan, qu'il a rencontré là au désert. Je reviendrai plus tard dans la suite sur la rencontre du Seigneur avec Satan là au désert. Voyez-vous, l'attitude du Seigneur qu'il a eue à l'égard des démons, mais aussi, la réaction que les démons ont eue envers Jésus. Alléluia. Notre attention n'est pas seulement attirée sur l'attitude que le Seigneur a eue vis-à-vis des démons, vis-à-vis du diable, mais aussi la réaction des démons, la réaction des esprits mauvais envers le Seigneur. Revenons à notre passage, et en particulier aux quatre versets que sont 28, 30, 31 et 33, et examinons-les de plus près. Que voyons-nous? D'abord, un petit état de lieu nous montre que cet homme est possédé par une légion des démons. Je vous avais dit, et vous devez le savoir maintenant, puisque je l'ai rappelé à deux reprises, deux dimanches successifs, une légion était une unité de l'armée romaine qui comprenait plusieurs milliers de soldats. Voyez-vous, pourriez-vous vous imaginer la vie de cet homme si le Seigneur pouvait ouvrir les yeux à ses disciples qui étaient là, qui avait fait le voyage avec lui, Jacques et les autres, pour qu'ils voient la réalité spirituelle de cet homme. Je crois qu'ils seraient tous tombés de stupéfaction, de découvrir comment le diable, l'envahisseur, destructeur, peut détruire une vie. Donc, quand l'homme est attiré, malgré la présence des démons,
Ils n'ont pas pu empêcher cet homme malgré sa démence, malgré son état. Les démons n'ont pas pu. Des milliers, hein? Écoutez-moi bien, des milliers, hein? N'ont pas pu empêcher cet homme d'approcher Jésus. Voyez-vous? Et quand ils arrivent, le démon portait parole. Hein? Il y a des porte-parole, pas qu'au gouvernement. Évidemment, tout le gouvernement ne peut pas parler, tous les ministres ne peuvent pas parler. Hein? Au terme d'une réunion, il y en a un qui est chargé de faire la synthèse, oui ou non? Voilà, il a été question de ceci, il a été question de cela, voilà, plusieurs propositions ont été faites par tel ou tel autre ministère, et après examen, débat et délibération, on est arrivé à la conclusion que finalement c'est ceci ou cela. Il y en a un qui parle. Là aussi, le porte-parole démoniaque, l'esprit mauvais, chargé de parler au nom des autres, eh bien, pousse un cri. Évidemment, un cri d'effroi, de terreur, parce qu'il est terrorisé. Il est en face d'une force qui le dépasse. Il est en face d'une lumière plus puissante que la lumière émise par le soleil. Plus puissante que la lumière émise par toutes ces étoiles, par toutes ces galaxies dans l'univers. Et face à une telle lumière, on n'a pas de choix que de s'incliner. Le porte-parole démoniaque pousse un cri par l'intermédiaire des cordes vocales de l'homme de tombeau. Il y a un seul qui parle, évidemment, il n'avait pas 1000 cordes vocales pour que plus d'un millier de personnes, des démons, parlent à la fois. Un seul prend la parole, évidemment, au nom des autres. Et il parle, il s'exprime. Il parle, les démons. Méfiez-vous de ce soi-disant parler en langue. Méfiez-vous, mes amis. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit « Oui, l'Esprit me possède » qu'effectivement, c'est le Saint-Esprit. Les démons parlent. Et je vous dirais qu'ils parlent encore plus que nous pourrions nous imaginer. C'est comme ça que beaucoup tombent dans ce piège et se laissent avoir. Ils inspirent de fausses prophéties. Car la fausse prophétie, comment savoir que cette prophétie ne vient pas de Dieu lorsqu'elle ne se réalise pas, hein? Et vous verrez que les mêmes gens, ils sont devenus de véritables délivreurs des prophéties. Vous voyez? Ils tiennent une sorte de pizza hut pour vendre des pizzas prophétiques. Vous voyez? Vous savez, il y a des restaurants qui livrent. Hein? De temps à autre, ma fille, ah oui, mais qu'est-ce qu'on va manger tout ça? Surtout moi, je suis seul. Sa maman est encore là-bas, elle doit fêter l'anniversaire d'un de nos garçons. Enfin bref, elle commande. Alors vous avez ces gens avec la pizza derrière. Vous avez déjà vu ça, non? En moto, hein? Waouh, jusqu'à destination. Et il y en a qui vous envoient des prophéties comme ça. C'est terrible. Peut-être vous en avez déjà reçu. Sur commande. Terrible. Voilà. Et les gens sont tombés dans cette sorte de dépendance, une sorte de pharmacodépendance spirituelle. Ils sont devenus comme des pharmacies spirituelles. Voilà, j'ai mal à la tête, envoie-moi un peu une boîte de paracétamol, de dafalgan, 500 mg. Voilà, on attend. Et puis la pharmacie envoie. Vous voyez, il y a une dépendance. Non, Dieu ne veut pas que nous demeurions dans cet état des bébés éternels. Tout pasteur, tout responsable religieux qui prenne du plaisir à maintenir les gens dans l'immaturité pêche contre Dieu. Car la volonté de Dieu, c'est que nous grandissions. Oh, alléluia. Que nous soyons aussi en mesure de prendre soin de ceux qui viennent de naître de nouveau. Eh oui, voyez-vous. Il y en a, il n'y a que le pasteur qui est au four et au moulin, et la femme du pasteur, souvent imbue d'elle-même. Et comme nos femmes s'habillent de manière, je dirais, solennelle, surtout avec les boubous là, ça les avale, c'est beau, attention. Non.
Nous devons amener les gens, à un moment, à prendre de l'envol par eux-mêmes. Voyez-vous, nous pouvons briller pour eux, mais il ne faut pas que 20 ans de conversion, qu'on soit toujours à la case de départ. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Quand vous avez un enfant qui ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème. Vous devez aller consulter. Voilà. Vous avez un enfant qui dépérit, il a 5 ans, c'est à peine qu'il dit « papa ». Vous n'allez pas vous réjouir, hein? Il en est de même de Dieu. Et maintenant, si vous avez des enfants qui restent bébés, vous en avez le premier. Le deuxième arrive, il est toujours bébé. Avant, vous aviez du temps pour s'occuper du premier, le langer, lui enlever les couches, préparer les bibis et tout ce que vous voulez. Et puis un deuxième, un troisième, à un moment, vous êtes fatigué. Et quelquefois, nous les pasteurs, nous sommes fatigués. Voyez-vous, vous êtes tout le temps là-bas. Vous êtes là. Bibi, biberon. Ok. Et puis, vous lui chantez une comptine. Hein? Et puis, tout doucement, qu'il ne se réveille pas. Sur la pointe des pieds. Puis, vous partez là-bas. Maintenant, si vous avez plusieurs qui se mettent à crier, malheur à vous. Dieu veut que nous grandissions. Ces enseignements que nous vous donnons, c'est pour vous rendre mature, pour que vous grandissiez, vous soyez en mesure de discerner le mensonge. L'homme arrive, il tombe. Ils ne peuvent pas regarder le Seigneur en face. Comment peux-tu lever les yeux et regarder le soleil? Vous perdez tout de suite votre vue, hein? Oui ou non? Il tombe à ses pieds. Écoutez le verset 28. Voyant Jésus, l'Esprit poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne me tourmente pas. » Car, ajoute la parole, Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de l'homme. Mes amis, devant Jésus, tout genou est appelé à fléchir. Devant Jésus, toute langue est appelée à confesser qui il est. Mon frère, ma sœur, réjouis-toi d'être en Jésus. Réjouis-toi d'avoir compris cela. Aucun sorcier ne peut faire face. Aucun magicien, aucun maître des ténèbres, aucun marabout ne peut se tenir devant Dieu et lui dire, toi, je... rien! Devant Jésus, tout genou fléchit. Devant Jésus, tout est appelé à confesser qui il est véritablement. Oh, gloire à Dieu! Jésus lui demanda, quel est ton nom? Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car beaucoup de démons étaient entrés dans l'homme. Non seulement ils reconnaissent qui est Jésus, mais en face de Jésus, ils n'ont pas d'autre choix que d'obéir. Ils sont comme un chien avec son maître. J'ai deux bergers allemands. Lorsque je veux leur donner un morceau d'os, ils viennent, je fais ça. Ils attendent. Et quelquefois, je m'amuse un tout petit peu avec eux, et puis je fais ça, ils sortent, ils disent non, ils restent comme ça. Les démons obéissent. Ils obéissent. Car ils savent qui est celui en face de qui ils se trouvent. Le verset 31. Ils suppliaient Jésus pour qu'il ne leur ordonne pas d'aller dans l'abîme. Littéralement dans les abysses, je reviendrai là-dessus. C'est la raison pour laquelle j'ai privilégié le texte de Luc, parce qu'il nous donne un détail que Marc n'a pas voulu nous partager, concernant l'abîme des ténèbres. Abyssos, enfin pour ceux qui ont fait le grec, ou traduit les abysses. Je reviendrai là-dessus. Vous voyez ? Il les suppliait pour qu'il ne les envoie pas dans les abysses.
Qu'est-ce que ça veut dire, supplier? C'est demander, mes amis, avec humilité. Oui ou non? Voilà. Et de manière pressante. Si tu ne me donnes pas à manger, si tu ne me donnes pas ce travail, je ne pourrai pas payer les études de mes enfants. Si tu ne me donnes pas ce travail, je ne vois pas comment je pourrais vivre. On supplie. Celui à qui on s'adresse est donc supérieur. Oui ou non? Il a tout le droit sur celui qui le supplie. Il sait qu'il est en face d'une force qui est au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Ils savent, tous les démons, que leur force est nulle face au Jésus de Nazareth. Au Jésus de la Bible, voulais-je dire. Supplier, c'est implorer. Je t'implore. Nous t'implorons. Ne nous envoie pas dans l'abîme, dans les abysses. Voyez-vous? Et le verset 33, la Bible nous dit, les démons sortirent de cet homme. Ils réagissent selon l'ordre du Seigneur. Mes amis, je m'arrêterai là parce que il y en a encore pas mal de choses, nous verrons. Il y a tant à dire sur la réaction des démons lorsqu'ils approchent le Seigneur de gloire, tant à dire sur la manière, l'attitude de tous ces envahisseurs des ténèbres. En bref, nous pouvons dire ceci. L'esprit impur, porte-parole de cette légion démoniaque, avait conscience, comme du reste tous ceux qui le représentaient et pour lesquels il prenait la parole, ils avaient conscience de deux vérités importantes sur Jésus. Deux vérités importantes sur Jésus. Quelles sont ces vérités? Je vais m'arrêter juste à une, et puis nous continuerons la fois prochaine. Car je voudrais parler de Jésus, de son omnipotence, de sa puissance incommensurable. Je voudrais parler de Jésus pendant tous les dimanches qui sont là devant nous, jusqu'au jour où nous allons organiser notre action d'évangélisation. Afin que lorsque vous viendrez, lorsque vous amènerez des gens inconvertis, des gens qui sont démonisés, des gens dont la vie est détruite par la présence démoniaque, eh bien, vous puissiez avoir une seule conviction en vous. Oui, je les amène là à la croisade, parce que Jésus est capable de tout, de délivrer cet homme ou cette femme. Voilà. Que vous ne le fassiez pas parce que vous le demandez, mais que derrière votre démarche, qu'il y ait une conviction qui se fonde sur la réalité biblique. Alléluia. Et gloire à Dieu. La première vérité, la première leçon que nous pouvons tirer de la réaction des démons lorsqu'ils sont face au Christ, c'est que pour les démons, pour ces milliers d'esprits impurs, Jésus est sans aucun doute d'origine divine. Il est d'origine céleste. Pour eux, il ne fait aucun doute. Ils sont en face du Fils de Dieu, en face de celui par qui, pour qui et de qui sont toutes choses. Ils sont en face du Créateur de toutes choses, car c'est par le Fils que le Père a créé. Et ils connaissent la vérité. Et c'est comme ça qu'ils confessent. Que me veux-tu, Jésus, Fils du Très-Haut, du Dieu Très-Haut? Je reviens à l'hébreu. Comme j'ai déjà eu à vous dire, quelquefois, se tourner vers les mots dans lesquels la Bible a d'abord été écrite, ou dans la langue qui a été parlée par les locuteurs, tels que nous le trouvons dans les histoires de la Bible, nous permettra de mieux comprendre ce qu'il y a. Que me veux-tu? C'est déjà une interprétation. Voilà ce que le démon porte-parole dit. Quoi à moi et à toi? Ça ne vous dit peut-être rien. Il faut savoir que cette tournure hébraïque, quoi à moi et à toi, cette expression hébraïque, et donc, c'est un hébraïsme qui est employé pour indiquer que les deux parties n'ont rien de commun. Ils n'ont rien entre elles. Quoi? À moi et à toi. Tu es de la lumière, nous sommes des ténèbres. Tu es la vérité, nous sommes les menteurs. Notre père est le diable. Notre chef, le diable. Le Seigneur le décrit comme étant le menteur. Tu es la vie, mais nous incarnons la mort. C'est comme ça que nous avons amené cet homme dans le tombeau. Parce que partout où nous passons, nous sèmons la mort. Mais vous, vous sèmez la vie. Quoi à moi, à nous et à toi? Ça vaut la peine, papa Timothée, d'acclamer le Seigneur. Et comme je sais que beaucoup aiment l'hébreu ou l'araméen, je vais maintenant vous dire cette expression. Jésus, fils du Dieu très haut, en hébreu. Yeshua, Ben El Elyon. El Elyon, le Dieu très haut. Yeshua, ça sort des hôtes de l'enfer. Ça sort de la bouche des esprits dévastateurs qui reconnaissent que Yeshua, j'aime ça parce que dans le mot Yeshua, c'est Dieu sauveur. Yeshua, Ben El Elyon, ou El Elohim Elyon, fils du Dieu très haut. Nous n'avons rien de commun. Nous vous en supplions. Nous nous mettons à genoux. Ne nous envoie pas, ne nous renvoie pas vers l'abîme. C'est où? Vers les abysses. Ne nous envoie pas là-bas de grâce. Donc ça doit être un lieu terrible. Oui ou non? Envoie-nous même dans ces pourceaux-là, que nous allions partager la vie des porcs. Voyez-vous? Regardez les intentions du diable. Même lorsque ces démons possèdent les animaux, c'est pour les conduire à la mort. Tout est mort avec eux. Ils ne peuvent pas reprendre la vie. Le diable ne peut pas dire la vérité, car c'est contre sa nature. Il ment depuis l'origine. Et Yeshua, fils du Dieu très haut, ça veut dire pas de négociation possible. D'un côté, la lumière, et de l'autre, les ténèbres. Donc, pas de cohabitation possible. Alors, quand on comprend tout ça, on n'a plus à discuter sur la possibilité ou l'éventualité que quelqu'un qui est né de nouveau puisse en même temps accueillir un démon. Comment voulez-vous que lorsque la lumière est en nous, que l'hôte des ténèbres, un hôte des ténèbres, vienne, il va habiter où? Nous n'avons qu'un cœur. Nous n'avons qu'un cœur. Hein? Il va habiter où? Alors on a fait croire aux gens, tiens, tu es converti, oui, mais tu dois passer par la délivrance. Oui, on peut délivrer des gens de certaines chaînes, de certaines casseroles, mais la vie à l'intérieur, Christ est là. On confond l'impact du moi, l'impact de la chair, les œuvres de la chair qui sont manifestes avec une véritable possession. On peut être sous l'influence démoniaque, puisque nous sommes encore sur terre, n'est-ce pas? On peut avoir face, et nous le verrons, voyez-vous, cet abîme-là. Il y a des endroits qui sont comme des véritables portails qui conduisent tout droit vers l'abîme. Ceux qui sortent de l'abîme, ces démons, ces puissances démoniaques, ces entités spirituelles finissent par envahir des quartiers, des coins, des villages. Ne vous étonnez pas. Vous arrivez dans des villages, vous sentez la désolation. Vous regardez les gens, ils sont malheureux. Il y a des sorciers, il y a des féticheurs, rien ne va. ça ne peut pas marcher. Parce qu'il n'y a que la lumière qui amène le changement. Quoi? En moi. Quoi? En nous. Et à toi. Mes amis, et je termine là. Satan et tous les démons connaissent l'identité de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ils font tout et cherchent par tous les moyens à empêcher les gens de croire simplement en Jésus-Christ. Ils vont pousser les uns vers l'athéisme, voyez-vous, en leur faisant croire que vous avez fait tellement des études, comment continuer à croire dans ces salades irrationnelles, voyez-vous? Dieu n'existe pas. Regardez, tout est le produit de l'évolution. C'est la nature qui a fait tout ça. Et quand vous leur posez la question, quel est, quand vous parlez, la nature a fait ça. Mais quel est le contenu de cette nature? Comment cette nature peut mettre sur pied des mécanismes comme l'homme? Quand vous prenez l'homme, c'est une usine complexe, l'homme. Vous savez ça? Oui, nous sommes une usine très complexe. Quand vous allez dans certaines usines, vous verrez, il y en a qui viennent avec des tracteurs, ils transportent ceci, ils amènent là, là où on amène, il y a un four pour travailler, et puis de l'autre, ils amènent ceci. C'est ce qui se passe dans le corps. Les vitamines, l'oxygène, le ceci, tout ça, vous pensez que c'est au hasard. Au hasard. Tout ça. Alors on convainc certains, au nom je ne sais de quelle science, et lorsque vous venez avec l'hypothèse théiste, Dieu existe. Non, 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 il rejette. Mais au nom de quoi? La science n'a pas vocation à rejeter une hypothèse. Vous savez ça? Enfin, je m'adresse aux étudiants. Oui? Vous voyez? On doit examiner toutes les hypothèses. Mais pourquoi, lorsque nous venons avec l'hypothèse de Dieu, qu'à la base de la création, il y a une personne, il y a un projet intelligent, la création n'est pas le fruit du hasard. Comme ça, par telle force, même cette force-là, la pesanteur, qu'on nous présente comme étant une sorte de divinité, doit venir de quelque part, non? Qui soutient toutes ces lois? Voyez-vous? Donc bref, mais aux autres, il va les aveugler par la religion. Quelqu'un m'a envoyé, un ami m'a envoyé une vidéo de quelqu'un qui a fait presque une crise sur un plateau de télévision où il noircit son prophète. Il dit, c'est un aventurier. Il nous a conduits dans l'erreur. Nos enfants sont morts. Bref, on ne pouvait plus les calmer. Hein. Et oui, on va inspirer telle ou telle autre religion en disant, non, c'est telle ou telle autre personne, c'est tel ou tel archange, etc. Parce que les diables, parce que les démons, parce que tout l'enfer, tout l'abîme savent, connaissent qui est Jésus-Christ. Alléluia. Donc ne vous étonnez pas que vous ayez affaire à des athées, ne vous étonnez pas que vous ayez affaire à des religieux obscurantistes, ne vous étonnez pas que vous ayez affaire à des intégristes. C'est le diable qui dresse les uns contre les autres. Acclamons le nom de notre Jésus. Oh, je parlerai des heures. Pendant des heures de ce Jésus, de ton Jésus, de notre Jésus, de votre Jésus, vous qui nous suivez à la télé, le seul qui nous libère de la possession démoniaque, de l'influence démoniaque, le seul devant qui Satan plie ses genoux, le seul, pas un autre. Alors inclinons nos têtes et disons-lui simplement merci. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu es. Et merci aussi de nous avoir fait comprendre tout cela, Seigneur. Aide-nous à rester attachés à toi. Tu es en effet la vérité. Tu es la lumière. Tu es le salut pour tous les peuples. Tu es le seul qui nous libère de l'emprise démoniaque, de l'emprise mortelle de Satan. Le seul qui nous affranchit de toute forme d'esclavage. Le seul qui nous introduit dans une relation existentielle marquée par la véritable liberté. Seigneur, merci pour ce que tu es. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Ô Jésus de Nazareth, tu es Dieu. Ô Yeshua, Ben El Elyon, tu es le ciel, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'acclamons, nous poussons des cris de joie. Oh, alléluia. Oh, merci. Merci, Jésus. Merci, Maître. Merci pour tout. Aide-nous à rester attachés à toi et à continuer à manger ta parole régulièrement. Merci, Maître. Nous voulons à notre tour à présent.